France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Philippe Cassard.
Je m'appelle Michel Béroff. Je suis né le 9 mai 1950 à Épinal. Et je suis pianiste.
Il y a eu un moment dans votre vie, Michel Béroff, où il s'est produit une véritable cassure qui partage un peu votre vie d'homme et d'artiste en deux. C'est cette dystonie de fonction qui s'est produite à votre main droite. Donc on est à peu près à la fin des années 80, voilà, tout début des années 90. Ouais. Au moment d'ailleurs où vous êtes nommé au Conservatoire de Paris, puisque vous êtes nommé professeur en 89. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment vous avez survécu à cette blessure?
Oui, c'est compliqué. Il faudrait faire des grands entretiens sur la dystonie, parce que c'est sûr que c'est un problème.
Parce que même ce mot, dystonie de fonction, est-ce qu'il existait déjà à l'époque?
Non, pas forcément.
Mais il était représenté par un pianiste à l'époque, c'était Léon Fleischer.
Oui, et puis très très vite après, Gary Graffman quand même, qui a eu ce problème aussi. Et bon, petit à petit, de plus en plus de gens et de plus en plus de musiciens aussi. Dans les orchestres, il y a des médecins, des spécialistes de la dystonie qui sont là pour étudier un petit peu le comportement, même au niveau d'ailleurs neuronal. C'est phénoménal ce qu'on arrive à voir. Il y a des études qui ont été faites à Hambourg. On arrive à voir la peur de la fausse note dans le cerveau, dans l'imagerie du cerveau. On voit des choses absolument incroyables. En tout cas...
Mais vous, ça s'est produit... Vous l'avez constaté comment?
D'abord, il faudrait peut-être dire qu'on parle de la dystonie, mais que chaque dystonie est différente chez chaque personne. La dystonie, c'est une histoire. C'est évidemment un problème physique qui est alimenté par le psychisme, qui n'arrête pas de communiquer en va-et-vient. Mais moi, je pense qu'il y a toujours une origine qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. Il n'y a pas de cassure. Dans mon cas, je sais que j'avais déjà une petite faiblesse au niveau du pouce, de la main droite. Mais comme toutes les choses, il n'y a pas de technique dont on peut dire qu'elle soit parfaite. Il y a très peu de gens.
Et qui est remontée à quand, cette faiblesse?
Qui est remontée à quand? Je ne sais pas. Moi, je peux même vous dire que mon professeur à Nancy, quand j'avais... 10 ans, on m'avait dit, attention, t'as le pouce un peu faible, hein, droit, ça te posait des problèmes. Bon. Et puis finalement, on oublie, et puis on travaille, et puis on se met à jouer les choses, on y arrive. La dystonie, c'est comme une maladie. Je veux dire, potentiellement, on a tous d'ailleurs des sales maladies, pour ne pas les nommer. Et un jour, ça se déclenche, on ne sait pas vraiment pourquoi. Là, c'est pareil, c'est la vie s'est passée normalement, et puis on ne sait pas pourquoi un jour, tout d'un coup, il y a un petit problème qui apparaît.
Qui vous empêche de jouer?
Qui fait qu'une crispation arrive. Alors évidemment, au début, la crispation, ça peut aller à différents doigts. Moi, c'est commencé avec le pouce et ça a touché le second doigt, la pince, évidemment, qui est tellement importante aussi. Dès qu'il y a le moindre petit problème, on s'arrête, et on se dit hop, je me repose, et bon, on voit ce qui se passe, ou alors on continue. En ce qui me concerne, j'ai continué. Si j'ai continué avec cette dystonie, c'est en rapport... avec certainement une frustration, avec un changement total de ma vie. C'est l'époque où je me suis mis à vivre avec Martha Argerich, qui évidemment n'a rien à voir avec, je m'empresse de le dire, avec ce problème, et qui au contraire a tout fait pour pouvoir m'aider.
Thank you.
Ma vie a été bouleversée. Il y a plein d'éléments qui me perturbaient intérieurement par rapport peut-être au fait de ma personne réelle et de l'image que je véhiculais sur scène qui n'était pas forcément raccord, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, toutes ces espèces de luttes intérieures.
Pour nos auditeurs, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le début de ces entretiens. C'est ouais. À la fois tout ce que vous nous dites de vous, votre timidité, côté réservé, pudique, extrêmement pudique, et l'image effectivement d'un brillant pianiste qui a une rage de jouer, qui joue les choses difficiles avec éclat et une volonté de faire.
Oui, l'image effectivement était très différente de ce que je ressentais à l'intérieur. Et à un moment, je me suis même dit que j'étais un faux tableau, mais un faux tableau d'époque, quoi. C'est-à-dire qu'on a rajouté des choses dessus, puis après, évidemment, il y a des gens qui sont des restaurateurs très très doués, mais il y a des moments où on peut pas enlever la couche supérieure sans abîmer la couche inférieure. Et donc j'étais, bon, comme plein de gens, c'est pas non plus un mélange un petit peu de ces deux choses, et j'y avais un espèce de mal-être. Et donc inconsciemment, j'ai voulu voir comment la personne qu'on appelait Michel Béroff allait s'en sortir si jamais il pouvait plus jouer de piano. Et je pense que c'est un petit peu ça qui était ma réaction, qui a fait que j'ai continué à jouer, avec l'handicap quand même de travailler beaucoup moins, de changer de vie, puisque je parlais d'une vie différente où je ne dormais pas. Je vivais la nuit.
Évidemment.
Et je dormais le jour mal, ce qui n'était pas du tout mon style de vie avant.
Oui,
tous ces stress, quel que soit encore une fois le bonheur que j'ai pu connaître par ailleurs, mais enfin tous ces stress ont été handicapants et ce sont des choses que j'ai choisies moi. Donc j'ai voulu aller au bout de ma dystonie. C'est pour ça qu'effectivement, ça a été très compliqué. Chaque fois que je voyageais encore beaucoup, parfois avec Martha, au Japon, en Australie, en Amérique, j'ai vu beaucoup de gens. Alors, des gens qui me proposaient des traitements plus ou moins excentriques, ou ceux qui me disaient que j'étais...
envoûté.
Envoûté, voilà. Il y a des médecins qui vous proposaient les traitements pendant 6 mois, 1 an. Le danger, évidemment, c'est que si on choisit une optique, il faut... au minimum 6 mois ou 1 an pour avoir des résultats. Puis alors après, si on se trompe, on reprend une autre direction, c'est sans fin. Une fois la dystonie, quand on la voit, c'est comme un iceberg. Il y a la partie émergée, puis la partie immergée. Et la partie immergée est beaucoup plus importante que la partie émergée. Donc le temps pour pouvoir éventuellement calmer la main est absolument importantissime. Et je me souviens que j'étais arrivé à un tel degré de contradiction interne. C'est comme si je donnais deux commandes. Une commande de jouer, une commande de pas jouer. C'est-à-dire, dès que je levais la main droite pour aller vers le clavier, j'avais un mouvement de recul de la main. Donc, c'est des choses, c'est difficile.
Comme deux cerveaux.
Voilà, deux cerveaux qui se contredisaient l'un l'autre. Des commandes différentes, ça fait des courts-circuits. Et donc, il y a un moment, j'ai plus pu jouer. Je me suis dit, bon, maintenant c'est fini, je ne joue plus sur scène. C'est vrai que c'était une époque où, à la fin, je jouais avec Martha, on a donné des récitals à deux pianos, et puis j'ai commencé un petit peu à annuler des concerts. Je me suis rendu compte, puisque Martha, en tout cas, avait annulé un certain nombre, que c'était facile de passer un coup de fil à son agent disant qu'on annulait un concert. Donc, effectivement, je me suis arrêté quand je ne pouvais plus aller sur scène. Et donc, après ça, évidemment, les problèmes ont commencé. Après ça, on se demande qu'est-ce que je fais, comment je vais vivre la musique. À la fin de cette période qui était la plus douloureuse, la plus difficile, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Chamagne, qui est quand même un kinésie, qui a aidé énormément de musiciens, qui a créé une clinique de la main aussi, et donc qui est plein de bon sens, et qui a dit que cliniquement, on peut très bien faire un certain nombre d'exercices qui vont aider, en tout cas, une fois que la main sera un peu calme, à remettre d'aplomb, ce qui nécessite de l'être mis. Bon. Et donc... ça m'a changé beaucoup de la première réflexion que j'ai eue quand j'étais voir un médecin qui m'a dit, quelques années auparavant, allez voir un psy, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on disait à l'époque, oui, c'est tout se passe dans la tête, il faut aller voir un psy, ce qui est totalement ridicule. Ce qui ne m'a pas empêché plus tard d'aller voir un psychanalyste, parce que de toute manière, c'était très intéressant et important, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, ça circule de l'un à l'autre, ça, c'est vraiment, il y a du feedback permanent. Donc, il faut quand même comprendre un petit peu. Mais c'est vrai que le temps pour calmer la main a pris 3-4 ans.
France Musique, les grands entretiens de Michel Béroff.
Pendant cette période, j'ai joué beaucoup de répertoire pour la main gauche.
Qui a eu un grand retentissement.
Ah oui, un disque pour la main gauche, oui, pour la main gauche seule, oui. Alors bon, j'ai joué tous les concertos de Prokofiev, de Britten, de Ravel, de Martinou, de Strauss, toutes ces tours pour la main gauche, beaucoup d'œuvres pour piano solo. Donc ça, ça m'a permis quand même de continuer à faire de la musique. Et puis finalement, j'ai pas mal d'amis qui m'ont permis de diriger. Enfin, la première fois que j'ai dirigé, d'ailleurs, c'était avec Martha Garrich, finalement, qui m'a permis de diriger l'orchestre de la Scala avec elle en soliste. Et c'était la première fois que je dirigeais. J'avais jamais dirigé avant. Et j'avais la première symphonie de Beethoven, deuxième concert de Beethoven, et puis Rosamund de Schubert. J'ai quand même dirigé beaucoup à cette époque. Donc, j'ai beaucoup de gens qui ont été vraiment très présents. Donc, ça, je dois dire que c'était très, très important. Et je les en remercierai jamais assez. Philippe Binder, par exemple, à Cannes, m'a fait diriger beaucoup son orchestre. On a fait une tournée au Japon, mais c'était une période un petit peu, voilà, un petit peu flottante. Et je me suis dit
comment à la main droite.
Petit à petit, je me suis mis à travailler. Et puis je me suis dit que de toute manière, si jamais j'attendais de plus avoir aucun signe, c'était terminé. J'allais jamais rejouer. J'ai recommencé à jouer. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment prêt, parce qu'il y a des concerts qui se passaient bien où je n'avais pas de problème, d'autres concerts où j'avais des problèmes. Je me souviens d'une phrase que mon père m'avait répétée quand j'étais jeune, qui était une phrase de Gustave Mérin, qui était un grand écrivain et ésotériste allemand, qui disait « Un travail dont l'âme se refuse à prendre la succession ne vaut pas que le corps l'exécute ».
Parlez, Michel Béroff, de ces années au Conservatoire de Paris. Vous y avez quand même passé plus de 20 ans.
26 ans.
26 ans.
Malgré tout, oui, oui. Oui, mais c'était des années très importantes. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'avais enseigné déjà un mois à Bloomington avant d'être nommé à Paris. Mais la transmission, elle était importante. Je me disais que mon expérience de pianiste, de chef d'orchestre, j'ai fait quand même pas mal de musique de chambre aussi à l'époque où je jouais régulièrement. Et donc, ça me paraissait tout à fait logique, à un moment donné, de transmettre. Et je dois dire que je me suis jamais lassé. Et donc, j'ai pas souvenir de m'ennuyer en enseignant. J'ai toujours adoré ça. Et j'ai été très triste quand j'ai été mis à la retraite il y a 4 ans. Bon, j'ai des élèves que je vois régulièrement. Je donne beaucoup de masterclass un peu partout dans le monde.
Au Japon, vous allez
au Japon aussi beaucoup, oui, oui. C'est important, évidemment, de suivre des gens pendant quelques années. Donc ça a été de les former un petit peu plus, même si je pense qu'il faut avoir beaucoup de modestie par rapport au rôle du professeur.
Et j'imagine que la musique de la deuxième moitié du XXe siècle était importante dans le répertoire de vos étudiants.
Oui, oui, j'en étonnais quand même pas mal. C'est vrai qu'au conservatoire, elle a pris plus d'importance qu'elle n'avait autrefois. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai essayé de continuer à les faire travailler ce répertoire parce qu'il est tout aussi important que le reste.
Michel Béroff, vous jouez du piano depuis 60 ans, grosso modo, un peu plus de 60 ans maintenant. Vous avez bien une idée de votre évolution.
Oui, bien sûr. Oui,
qu'est-ce que vous avez gagné ou qu'est-ce que vous avez perdu?
D'abord, je pense beaucoup plus que quand je joue une œuvre. Je pense que j'ai du mal parfois avec la réalité. Donc, je vis dans un monde un peu rêvé. Donc, la musique, au fait, je la fais aussi un petit peu comme ça, ce qui peut-être donne l'impression qu'il y a un côté très, très intuitif. Ce qui n'est pas forcément, parce que mon intuition, je ne pense pas qu'elle soit spécialement une acuité spéciale. Enfin, en tout cas, je dois en avoir un petit peu comme tout le monde. Et puis, surtout, j'orchestre tout. Alors ça, je pense que c'est le fait d'avoir dirigé qui fait que je ne peux pas m'imaginer... que c'est une boîte noire avec des 88 touches qui va être suffisante. Non, tout est orchestral et je pense que même Chopin, bon, qui pensait beaucoup vocal, mais lui, c'est orchestral aussi sa musique. Donc c'est quand même une constante chez moi.
Il y a un aspect de votre carrière qu'on n'a pas abordé, parce qu'il est aussi peut-être plus discret, c'est le chambriste que vous avez été aussi, où que vous êtes, parce que bon, on se souvient du duo que vous avez formé avec votre comparse, Jean-Philippe Collard, à quatre mains et deux pianos, mais enfin bon, des violonistes, vous avez joué avec Dumay, Amoyal, Zettmeyer aussi, je crois.
La musique de chambre, c'est vrai qu'elle a c'est l'essence de la musique, j'adore ça, et j'ai un plaisir fou. un plaisir fou. À deux pianos, bon, avec Marie-Joseph Jude aussi.
Et justement, parlez-nous de ce disque Liszt extraordinaire que vous avez fait il y a quelques années, avec des transcriptions de Liszt, les préludes, oui, bah, le concerto pathétique aussi.
Oui, bah, comme on adore Liszt aussi bien Marie-Joseph Jude que moi. On a une manière de respirer.
On joue beaucoup ensemble.
Oui, oui, il se trouve qu'elle est ma femme, donc c'est pour mon grand plaisir aussi. Donc, on a une fille, c'est magnifique, qui fait du piano, qui s'appelle Kim. J'avais une grande fille, puisqu'on parle des filles, qui s'appelle Pamina, qui était aussi le bonheur quand elle est née de ma vie. Donc, la vie de famille aussi, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, c'est une chose importante que j'ai découvert un petit peu sur le tas, puisqu'avant, j'étais uniquement en voyage, et que pour avoir une vie affective un peu équilibrée, quand on est en voyage, c'est quasiment impossible. Et quand on n'est pas en voyage, c'est très difficile. De toute manière, quel que soit là aussi les plaisirs que ça donne. Mais bon, en tout cas, c'était une chose qui m'a enrichi aussi, qui m'a fait réfléchir forcément sur la priorité dans la vie. Enfin, l'une n'étant pas d'ailleurs contre l'autre, puisque en tant qu'être humain, on a une seule colonne vertébrale. Et en tant que pianiste, on en a deux, enfin, musicien. Et il faut que quand même, il y en ait une des deux qui soit droite, sinon on ne peut plus marcher.
Eh bien, merci, Michel Béroff, pour ces grands entretiens que vous nous avez donnés pour France Musique.
Merci beaucoup, Philippe Cassard.
La fin du concerto pathétique pour deux pianos de Franz Liszt, interprété par Marie-Joseph Jude et Michel Béroff. Ainsi s'achève cette semaine de grands entretiens avec Michel Béroff. Le podcast et les références des œuvres entendues pendant les émissions sont à retrouver sur la page de l'émission francemusique.fr. Et merci à l'équipe de cette semaine, Flora Sternadel, Benjamin Vignal, Julien Girard, Étienne Collin et Gilles Blanchard. On se retrouve demain à 14h pour Portrait de famille spécial Michel Béroff.
À réécouter sur francemusique.fr.